Dimanche dernier. Souvenez-vous, le premier dimanche de carême, l'Église nous montrait Jésus approché à trois reprises par le démon et soumis à la tentation. Elle nous montrait Jésus affaibli par son jeûne de 40 jours, Jésus subissant la faim et même, ce qui fait horreur, mais ce qui est clairement écrit dans l'Évangile, Jésus subissant l'action du diable et acceptant d'être transporté par lui à deux reprises, d'abord sur le pinacle du temple, puis sur le sommet d'une haute montagne. Bien sûr, Jésus est sorti entièrement vainqueur de cette tentation, mais c'était un évangile de lutte, d'affrontement, un évangile de combat spirituel qui nous introduisait énergiquement dans la pénitence du carême. Aujourd'hui, avec l'évangile de la transfiguration, le ton est tout différent. Jésus est encore sur une haute montagne, mais plus du tout pour y être tenté. On est dans la paix, dans le bonheur de la contemplation. Pour un peu, on se croirait au ciel. Et d'ailleurs, saint Pierre s'écrit « Seigneur, quel bonheur d'être ici ! Si vous voulez, faisons ici trois tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » Jésus manifeste d'avance la gloire qui illuminera définitivement son corps à partir de la résurrection. Et le dernier mot de notre évangile d'aujourd'hui est d'ailleurs l'annonce de cette résurrection. « Nemini dixeritis visionem, donec filius hominis a mortuis resurgat. » Pourquoi donc ce contraste? Pourquoi l'Église nous donne-t-elle, dès ce deuxième dimanche de carême, alors que Pâques est tout de même encore loin, cet évangile de la Transfiguration? Est-ce pour nous encourager dans nos efforts de carême, en nous rappelant le but à atteindre? Sans doute. Notre Seigneur lui-même a d'ailleurs voulu cet épisode de la Transfiguration pour préparer ses apôtres à la Passion. Et ce n'est pas un hasard s'il a choisi pour y assister les trois mêmes apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui seront les témoins de sa douloureuse agonie au Jardin des Oliviers. Il y a un lien entre la Transfiguration de notre Seigneur et sa Passion. Et d'ailleurs, saint Luc, qui est un évangéliste souvent un peu plus curieux que les autres, et qui a visiblement pris la peine de demander aux trois apôtres « Mais de quoi donc Jésus a-t-il parlé avec Moïse et Élie ?» Saint Luc précise qu'il parlait de la mort qu'il devait accomplir à Jérusalem. Mais si nous voulons bien entrer dans l'esprit de la liturgie et profiter de la nourriture que l'Église veut nous donner aujourd'hui, nous devons aussi utiliser la clé qu'elle nous a fournie mercredi dernier dans les deux lectures de la messe du mercredi des quatre temps de carême. Profitons bien, mes frères, de cette liturgie du carême. Même si nous ne pouvons pas assister à la messe tous les jours, prenons quelques instants pour lire et méditer les textes de la messe du jour. Dieu nous y donne rendez-vous quotidiennement pendant tout le carême pour nous nourrir spirituellement avec des textes spéciaux pendant toute cette sainte quarantaine. Et ceux qui l'ont déjà fait la semaine passée se souviennent sans doute que l'Église nous a fait lire mercredi précisément un texte sur Moïse et un texte sur Élie pour nous préparer à l'évangile d'aujourd'hui. Dans les deux cas, aussi bien pour Moïse que pour Élie, il s'agit d'une rencontre solennelle avec Dieu. Dans les deux cas, cette rencontre s'accomplit sur la montagne sainte, le Sinaï ou l'Horeb. Et dans les deux cas, elle est accompagnée d'un jeûne de 40 jours. on voit que c'est bien un enseignement qui nous est destiné à nous qui faisons le carême. C'est la figure du rendez-vous avec Dieu que nous avons chacun durant ce carême, et ces épisodes nous donnent diverses leçons pour faire un bon carême. Nous n'en prendrons que trois. D'abord, première leçon, quand on considère ces événements, aussi bien la transfiguration de notre Seigneur que ce qui est arrivé à Moïse et ce qui est arrivé à Élie, tout commence par une mise à l'écart. C'est déjà très clair dans l'évangile que nous venons d'entendre. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. À l'écart. À l'écart de quoi? De qui? Les apôtres avaient déjà été écartés du monde. Mais parmi les apôtres eux-mêmes, notre Seigneur en prend trois encore pour les mettre à l'écart des autres, pour se révéler davantage à eux. On trouve la même séparation dans le récit concernant Moïse. Il vient d'y avoir la fuite d'Israël hors d'Égypte. Dieu a donc séparé son peuple des païens. Mais pour se révéler à Moïse, Dieu veut encore que Moïse se sépare de son peuple. En ces jours-là, donc Moïse dit aux anciens, « Attendez-nous jusqu'à notre retour. Vous avez avec vous Aaron et Hur. S'il survient quelque différend, qu'on s'adresse à eux. » Et uniquement avec Josué, Moïse quitte donc le peuple pour monter sur la montagne et traverser la nuée au sommet de laquelle Dieu va se révéler à lui. Enfin, on trouve encore la même séparation dans le récit concernant Élie. En ces jours-là, Élie vint à Bersabée de Juda et y laissa son serviteur. Donc alors que Moïse était monté avec Josué, Élie, lui, sera tout seul. Il se sépare même de son serviteur. Pour lui, il fit dans le désert une journée de chemin, puis il alla s'asseoir sous un genêt, etc. Et il y a évidemment une leçon à en tirer pour nous, une leçon quant à la démarche de séparation du monde que nous devons accomplir, particulièrement pour prier. Le carême a un aspect communautaire, il est bien de jeûner si possible en société. Autrefois, toute la chrétienté jeûnait et c'était un soutien important. Mais forcément, il a aussi un aspect personnel et il faut l'un et l'autre. Il ne faut pas ne voir que l'aspect public, l'aspect extérieur. Il faut savoir s'isoler avec Dieu. Et c'est là peut-être le premier piège à éviter pendant le carême, c'est de voir le carême de façon trop extérieure, en regardant trop ce dont on se prive, et il faut des privations bien sûr, mais il faut aussi regarder le positif, ce que l'on veut obtenir, c'est-à-dire un contact avec Dieu. Et donc être capable de se séparer non seulement du monde et de ce qui est mauvais, mais même de ce qui est bon, de nos préoccupations légitimes et bonnes, avec des gens avec qui nous devons avoir des rapports, mais de temps en temps, vraiment se mettre à l'écart pour prier, donner du temps au bon Dieu, notamment pour faire une bonne lecture spirituelle, si possible, chaque jour. Deuxième leçon, on constate que aussi bien Moïse qu'Élie ont eu besoin de temps pour pouvoir ainsi s'approcher de Dieu. Des deux côtés, on parle de 40 jours. Moïse est resté 40 jours sur la montagne et Élie a dû faire sa marche de 40 jours vers l'Horeb avant de pouvoir avoir cette rencontre avec Dieu. Il y a là aussi une leçon à tirer, c'est que nous aussi, nous avons besoin de temps. On rencontre Dieu non pas en une seule fois, mais à travers des efforts successifs et répétés, sans jamais se décourager. C'est là le deuxième piège à éviter pendant le carême, le piège du découragement. On fait des efforts un jour, deux jours, puis on a l'impression que ça ne nous apporte pas grand-chose et on arrête. Non, toute la force vient de la persévérance. Et nous avons sans doute tous fait plus ou moins cette expérience. Quand on marche dans une plaine loin d'une grande montagne et qu'on avance vers la montagne, on peut marcher des heures et avoir l'impression, au bout de plusieurs heures de marche, voire même d'une journée de marche, qu'on n'a pas avancé. On a pourtant réellement avancé, mais on n'avance que petit à petit. Et seule la persévérance finit par payer. Donc, prenons bien des résolutions de persévérance. Et si jamais nous manquons un jour à nos résolutions, reprenons-les courageusement dès le lendemain, sans laisser tomber. Troisièmement, on peut considérer la nature de cette rencontre avec Dieu. Là, pour Moïse, elle se fait au sommet du mont Sinaï, et Moïse en redescend avec le visage tout transformé. Il y a eu une transformation en lui qui se manifeste même sur son visage, au point que les Hébreux lui demandent désormais de bien vouloir voiler son visage afin de ne pas être ébloui par la gloire qui en rayonne. Élie aussi est changé, mais le changement semble être davantage intérieur. Élie était une personnalité très énergique. La Sainte Écriture le présente comme un prophète semblable à du feu, à la parole ardente comme une flamme. Et on a vu dans la façon dont il a combattu et mis à mort les prophètes de Baal à quel point il était ardent. Mais Élie, justement, s'est laissé prendre au découragement en ayant l'impression que ses efforts ne servaient à rien. Et dans le désert, il se laisse aller, il s'étend sur le sol et demande à Dieu de le faire mourir en disant « Rappelez-moi à vous, Seigneur, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Et il faut qu'un ange vienne le secourir et vienne lui donner un aliment pour l'aider justement à pouvoir faire cette marche de 40 jours vers la montagne sainte. Et là, sur la montagne, Élie découvre que Dieu ne se manifeste pas de façon fulgurante ou tonitruante. Dieu n'est pas comme il l'attendait dans la tempête, ni dans l'éclair, ni dans le tonnerre. Dieu se manifeste uniquement sous la forme d'un murmure, un souffle doux et léger. On peut enfin remarquer comment les apôtres eux-mêmes, lorsque Jésus est transfiguré devant eux, prennent conscience de qui est réellement notre Seigneur Jésus-Christ. Et on peut dire que normalement, si les choses avaient été comme elles devaient l'être, notre Seigneur aurait dû continuellement resplendir. C'est uniquement parce que notre Seigneur avait une mission à remplir et que selon cette mission, il devait subir la passion, c'est uniquement à cause de cela que la gloire qui rayonnait normalement de sa personne a été contenue. Et là, pendant quelques instants, les apôtres ont pu voir notre Seigneur tel qu'il était réellement au-delà des apparences sensibles. Ils sont redescendus de la montagne avec, on peut dire, un nouveau regard sur notre Seigneur. Ils avaient compris qui il était. Or, ce qui s'est passé pour Moïse, ce qui s'est passé pour Élie, ce qui s'est passé pour les apôtres, c'est ce qui doit se passer pour nous quand on rencontre Dieu. Et ici aussi, il y a un piège à éviter. Le piège, c'est d'attendre trop de la prière des événements extraordinaires. On attend souvent et on demande dans nos prières que le monde autour de nous change. Et surtout aujourd'hui, avec la crise dans l'Église, ou bien dans notre pays, on demande et on doit demander. C'est une prière que l'on doit faire. On doit prier pour l'Église, on doit prier pour la France. Mais il faut bien comprendre que ce dont nous avons principalement la charge, c'est nous-mêmes. Et donc ce que nous devons d'abord et avant tout demander dans la prière, c'est un changement en nous-mêmes. Et c'est, si l'on sait prier comme il faut, le vrai fruit de la prière change notre regard sur les choses. Nous nous rendons compte que Dieu nous attend non pas dans des événements extraordinaires, mais plus ou moins imaginaires. Il nous attend, minute après minute, dans notre devoir d'État quotidien. Et si, minute après minute, nous faisons effort pour faire ce que nous devons faire, en nous demandant « quelle est la volonté du bon Dieu ?» Je l'accomplis, et sans nous préoccuper du reste, là, vraiment, nous le rencontrons, là, nous progressons vers lui. Et c'est ça le fruit normal de la prière. Une bonne prière se manifeste de cette façon-là, que ensuite, dans la vie de tous les jours, on va mieux réussir, instant après instant, à coller, si l'on peut dire, à la volonté du bon Dieu, à nous en préoccuper, à ne pas nous préoccuper du reste, et à se poser cette question, qu'est-ce que veut le bon Dieu, qu'est-ce qu'il attend de moi maintenant, je le fais et je laisse tomber tout ce qui n'est pas la volonté du bon Dieu. Il y a une action intérieure du Saint-Esprit qui change notre regard. Et si vraiment nous faisons effort pendant ce carême, un effort d'abord, comme on a dit, pour nous mettre à l'écart, particulièrement pour prier ou bien pour faire une lecture spirituelle, se séparer de nos préoccupations habituelles. Deuxièmement, un effort régulier, un effort persévérant qui ne se laisse pas décourager. Eh bien, troisièmement, nous obtiendrons cette grâce qui nous transformera intérieurement. Peut-être que le monde autour de nous ne changera pas beaucoup, mais nous, nous serons changés et par le fait même, le plus important de ce que Dieu veut faire en nous sera accompli. Et sans que nous nous en rendions compte, ensuite, parce que nous faisons la volonté du bon Dieu, nous changerons les choses autour de nous. Donc, de cette manière-là, si nous le faisons, on peut dire que la fête de Pâques, au terme de ce carême, ressemblera vraiment a pour nous a une transfiguration. Donc demandons à la Sainte Vierge à bien faire le carême dans cet esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.